À tous, merci de nous suivre du coup pour cette deuxième session de la journée d'études patrimoine, culture et commun. Interroger l'irruption des communs dans le domaine patrimonial peut se faire sous différents prismes et paradigmes. Nous venons de voir les lieux culturels des communs lors de la session 1 et nous allons maintenant nous questionner grâce aux contributions de nos deux intervenants sur la socialisation des communs. Donc, au sein de notre groupe de travail qui est interdisciplinaire, je le rappelle, donc élève conservateur du patrimoine, juriste et politiste, cette question de socialiser les communs s'est imposée peu à peu. Elle s'est d'abord posée en termes de gouvernance. Faut-il repenser les modes de gouvernance des institutions patrimoniales ? Comment les communautés spontanées bousculent les domaines traditionnellement, gérés par l'État ? Puis, au fil de nos discussions, elle s'est déplacée légèrement sur l'idée de rendre social le patrimoine et sur comment ce patrimoine est transféré au collectif. Ce défi, ces enjeux sont prégnants aujourd'hui, à la fois pour les conservateurs et conservatrices du patrimoine, d'interroger et de s'interroger sur l'exercice de leur futur métier, et à la fois pour les juristes et les politistes sur la gestion du patrimoine commun, la question de la légitimité et de l'institutionnalisation de la conservation du patrimoine. Socialiser les communs implique ainsi plusieurs changements ou solutions non exhaustives. La transformation des politiques publiques et des modes de gouvernance, l'émergence de nouveaux modèles culturels, l'élargissement des attentes des publics en manière de participation et de mise en partage des collections, etc. etc. Dans un premier temps, ces mutations induisent à la déconstruction d'une certaine institutionnalisation de la conservation du patrimoine. Elle interroge la prise en charge des communs culturels par des professionnels au profil sociologique souvent peu diversifié. Cela encourage le développement des modes alternatifs d'administration dans le mode culturel et les pratiques professionnelles du secteur se renouvellent. Ces innovations inscrivent le patrimoine dans une dynamique de commun et visent ainsi à mieux socialiser les patrimoines et à susciter de nouveaux rapports socioculturels avec les publics. Cela interroge également dans un second temps la légitimité des politiques publiques orientées sur la protection d'un patrimoine commun et la reconnaissance sociale de ces dernières. Et c'est ce que nous allons explorer dans un court instant avec nos deux intervenants sur deux thématiques, sur deux secteurs différents, celui des archives et celui de l'archéologie. Donc Bruno Ricard, vous êtes directeur des archives nationales, vous êtes archiviste paléographe et conservateur général du patrimoine, issu de la promotion Vasari de 1992 en spécialité archives. Vous avez exercé vos fonctions en tant que directeur du centre des archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères, puis des archives départementales de l'Oise. En 2013, vous avez rejoint le service interministériel des archives de France et vous avez épaulé le directeur des archives de France dans les travaux de la nouvelle réglementation relative aux données personnelles, connue sous le nom de RGPD et entrée en vigueur en 2016. En 2019, vous avez succédé à Françoise Bana-Berger à la tête, du coup, des archives nationales et vous allez nous présenter une communication intitulée « Une lecture de la politique publique des archives au prisme des communs ». Suite à cette intervention, ce sera à Laurence Ranois de prendre la parole. Donc, vous êtes enseignante-chercheuse en histoire romaine à l'Université de La Rochelle. Vous êtes directrice du DU d'Histoire, de l'Art et d'Archéologie à cette même université. Et vous avez dirigé plusieurs chantiers de fouilles préventives et programmées. Vos travaux s'inscrivent au cœur des recherches sur l'Occident romain et sont engagés dans plusieurs axes, donc la pratique funéraire, la topographie de Lyon antique, le littoral atlantique et le site de Tapus en Tunisie, si je ne me trompe pas. Et vous allez nous présenter, du coup, une communication intitulée « Quand l'archéologie fait société ». Et je ne serai pas plus longue, je vous laisse la parole. Bruno Ricard, vous avez entre 20 et 30 minutes.
Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par dire que, quand j'ai été contacté par Vincent Néry, je me suis dit « qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur ce sujet ?» dans la mesure où la question des communs, c'est un sujet qui est assez peu présent dans l'univers des archives, c'est même un euphémisme, et sûrement pour des raisons qui tiennent à la nature des archives et aux garanties qui sont apportées par le régime juridique. Alors j'ai sentiment pour ceux d'entre vous qui m'avaient entendu sur la déontologie, de redire la même chose, puisque j'avais dit la même chose, que la déontologie, ça a été un sujet assez neuf, alors ça l'est de moins en moins quand même, hein. C'est un sujet assez neuf, et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'on a un corpus très dense qui encadre vraiment nos pratiques. Je vais commencer par des définitions, définition des communs, définition des archives. Les communs, cela a été dit par Marc Drouet tout à l'heure, sont définis à l'article 714 du Code civil. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. Cette définition date de 1803, est toujours en vigueur. À cette époque, les communs, c'était notamment l'eau et l'air. De manière plus précise, la définition actuelle que j'ai pu trouver des communs s'appuie sur plusieurs critères cumulatifs. C'est d'abord une communauté qui gère la ressource. Il a été beaucoup question, cette question de communauté, lors de la première table ronde. C'est une ressource qui est partagée et c'est une ressource qui est accessible. Les archives, pour leur part, sont définies dans le livre 2 du Code du patrimoine, à l'article L211-1. Les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Et l'article suivant, l'article L211-2, précise que la conservation des archives est organisée dans l'intérêt public, tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publics ou privés, que pour la documentation historique de la recherche. C'est une définition qui est ancienne, qui date de la loi de 1979 sur les archives, la première grande loi après la loi révolutionnaire du 7 Messidor en deux, dont je parlerai. Alors on constate à la lecture de ces deux définitions qu'il y a à la fois des convergences et des divergences. Divergences parce que les archives appartiennent toujours à quelqu'un. Elles appartiennent à l'État, elles appartiennent à un établissement public, elles appartiennent à une collectivité territoriale, pour les archives publiques, à une personne physique, à une association, à une entreprise, pour les archives privées. Cette notion de propriété, c'est ça qui a fait échec en 2015-2016 à l'adoption dans la loi française de la notion de bien commun informationnel, puisque dans le cadre de la loi, du projet de loi d'Axel Lemaire, à l'époque secrétaire d'État au numérique, sous le mandat de François Hollande, projet de loi pour une République numérique qui a été adopté en octobre 2016, mais qui a été débattu dès 2015, et notamment avec un projet de loi issu du secrétaire d'État qui a été soumis à un débat démocratique. Les citoyens intéressés ont été appelés à voter pour les différentes dispositions projetées, à proposer même de nouvelles rédactions, de nouvelles propositions rédactionnelles, légistiques, comme on dit, faire des commentaires, ça a très très bien fonctionné. Mais, et donc il y avait l'article 8 de ce projet de loi initial qui prévoyait de définir juridiquement des biens communs informationnels qui n'a pas été adopté, c'est-à-dire qu'il y a sûrement, on en discutait avec Vincent Desgris à l'instant, j'ai pas eu le temps de faire la vérification là, tout à l'heure, mais je pense qu'il a pas franchi le stade de l'interministériel et donc cet article-là n'a même pas été soumis au Parlement. Donc tout ça pour vous dire que cette question de propriété qui interdit de parler pleinement, au terme de manière juridique, de commun dans le domaine des archives. En revanche, on voit bien que la justification de la conservation des archives, surtout dans la sphère publique, est fondée sur l'intérêt public. Alors, j'ai vu tout à l'heure que l'intérêt public, c'était pas tout à fait, c'est quand même différent des communs. Les archives présentent une utilité sociale, comme les communs. Là, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Par ailleurs, les archives, elles sont accessibles, et accessibles à tous sans discrimination. Je parle des archives publiques. Depuis la Révolution française, et la loi du 7 Messidor en deux, qui est notre grande loi fondatrice, tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts communication des pièces qu'il renferme. Cette disposition de transparence, qui permettait de faire une bascule entre l'Ancien Régime et la Révolution, doit être lue en miroir de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est formulé ainsi, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Encore aujourd'hui, les archives publiques sont communicables de plein droit, c'est l'expression dans la loi, dans le Code du patrimoine, à toute personne qui en fait la demande. Et par défaut, les archives sont communicables sans délai. C'est l'article L213.1 du Code du patrimoine. Alors par défaut, parce qu'il y a quand même beaucoup de délais spéciaux qui ne permettent une communication, sauf dérogation individuelle ou dérogation générale, qu'après l'expiration de délais plus ou moins longs, le délai le plus bref étant de 25 ans à compter la date des documents, et le plus long étant celui qui protège le secret médical, il est de 120 ans après la date des documents, 120 ans après la naissance, excusez-moi, ou 25 ans après le décès. Une seule catégorie de documents est inaccessible de manière perpétuelle et absolue, puisque même le régime dérogatoire ne s'y applique pas, ce sont les documents qui permettraient de concevoir, localiser, utiliser des armes de destruction massive, donc nucléaire, biologique, radiologique, etc. C'est une disposition qui existe depuis la loi sur les archives de 2008. Je précise aussi que lorsque des archives nous sont proposées en don ou en dépôt, ce qui est très fréquent, nous négocions systématiquement avec les déposants et donateurs un alignement sur les règles d'accès qui prévalent pour les archives publiques afin d'éviter des conditions restrictives, discriminantes, entre usagers qui seraient contraires à l'intérêt public. Donc c'est souvent un cheminement assez long que nous faisons avec les donateurs et déposants qui, au final, dans la plupart des cas, acceptent de cet alignement, mais de prime abord, ils sont souvent tentés par des conditions plus restrictives que la loi ne le fixe pour les archives publiques. L'accès aux archives est par ailleurs gratuit. C'est inscrit dans la loi du 7 Messidor en 2, ça avait été oublié pendant deux siècles, et ça a été réintroduit dans la loi du 15 juillet 2008 sur les archives, donc codifiant le code du patrimoine. Et ça a été, alors c'est pas inscrit comme ça de manière aussi claire dans la loi, mais c'est déduit de l'articulation qui existe désormais de manière parfaite entre le code du patrimoine et le CRPA, le code des relations entre le public et l'administration. À l'époque, en 2008, c'était la loi dite CADA du 17 juillet 1978 qui a été codifiée dans le CRPA. Donc pas de droit d'accès, pas de carte payante pour accéder aux salles de lecture des services d'archives, contrairement à ce qui peut se pratiquer dans les bibliothèques, les musées ou les monuments historiques. Aux archives nationales, nous avons élargi en 2020 cette gratuité qui prévalait uniquement pour les salles de lecture. Nous l'avons élargi aux expositions de notre site parisien qui était d'accès payant, alors qu'à Pierrefitte, les expositions étaient gratuites, et c'était sûrement les seules expositions du réseau des archives qui étaient payantes. Pour moi, l'accès à une exposition d'archives, c'est le prolongement, puisqu'on présente des documents, alors pas seulement des documents d'archives, des objets aussi, en tout cas. Mais l'accès à une exposition d'archives, c'est le prolongement de l'accès aux documents dans une salle de lecture. Dans un cas, ce sont des chercheurs qui ont beaucoup de temps, qui sont dans un sujet de recherche. Dans l'autre cas, ce sont des citoyens qui veulent prendre connaissance de documents dans une démarche autre, avec beaucoup moins de temps. Et par ailleurs, il y aurait vraiment eu indécence à faire payer un droit d'accès pour venir voir à l'hôtel de Soubise la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, bientôt le décret d'abolition de l'esclavage de 1848, dans le cadre d'un nouveau cycle qu'on vient de créer qui s'appelle Les Essentiels, qui a été engagé l'an dernier. Donc, si les archives ne sont pas des communs, elles en revêtent, de mon point de vue, certaines caractéristiques, en particulier en matière d'accessibilité et de gratuité. Par ailleurs, la gratuité et l'accessibilité, associées à l'adoption de licences ouvertes de réutilisation, permettent d'en faire des sources de commun. Nous avons, par exemple, conclu un partenariat avec Wikimedia Commons en 2014, et des centaines de documents des archives nationales sont désormais sur Wikimedia Commons, en licence Creative Commons, c'est la CC BY SA pour Share Alike, partage à l'identique. Et au-delà du Wikimedia Commons, l'ensemble des ressources réutilisables des archives nationales peuvent l'être gratuitement depuis l'adoption par les archives nationales d'une licence ouverte en 2017. Et les archives nationales sont le premier grand établissement culturel français qui a adopté une licence ouverte pour l'ensemble de ses ressources. Alors, évidemment, c'est aussi parce que c'était moins douloureux pour financièrement que pour d'autres établissements, puisque les recettes qu'on tirait des licences de réutilisation payantes qui existaient auparavant, c'était de l'ordre de 25 ou 30 000 euros. Rien à voir, évidemment, avec les ressources tirées par la RMNGP de la réutilisation des clichés numériques des œuvres d'art des musées. Donc, aux Archives nationales, cette licence permet la réutilisation libre et gratuite de toute la ressource que nous avons, dès lors qu'elle n'est pas grevée de droits de propriété intellectuelle ou qu'il n'y a pas de restrictions liées à la présence de données à caractère personnel. Alors, je voulais également, c'est une suite de réflexions que je vous livre, parler de la question des communautés telles que nous la vivons, nous, dans les services d'archives. La communauté, les communautés, on y est confronté. On y est confronté souvent à des communautés qui prennent la forme d'associatives ou de groupements d'associations. L'association Archives du Féminisme, par exemple, association loi 1901, fondée en 2000 par l'historienne Christine Barr, a pour objectif principal de préserver les sources de l'histoire des féminismes. Mais on voit qu'elle ne conserve pas elle-même, de manière communautaire, de manière associative, les ressources qu'elle collecte. Elle les confie à deux institutions publiques, la bibliothèque Marguerite Durand à Paris et le centre, surtout le centre des archives du féminisme à l'université d'Angers. Alors, ce n'est pas exclusif, bien évidemment, puisqu'on peut collecter, les autres institutions culturelles peuvent aussi collecter des archives ou de la documentation sur l'histoire du féminisme. Par exemple, les enfants de Gisèle Halimi ont confié aux archives nationales l'ensemble de ces archives, notamment de ces dossiers d'avocate l'an dernier. Mais si je voulais vous parler de cette question-là du modèle associatif, c'est que si à l'étranger, en particulier dans le monde anglo-saxon, des fondations nombreuses existent, assistent sur des contributions privées, parfois très élevées, c'est beaucoup plus difficile en France, où les associations loi 1901 disposent rarement de ressources très importantes et dépendent souvent de subventions publiques, ce qui fragilise leur longévité, ce qui fragilise leur pérennité. Et dès lors qu'il est question de conservation de collection, cette problématique de la pérennité, de la longévité se pose. Quand j'étais directeur des archives départementales de l'Oise, j'ai assisté, dans les années 2000, à la liquidation judiciaire de l'écomusée des Pays de l'Oise, qui était un écomusée associatif avec un réseau de musées, avec des collections photographiques, qui a été entièrement liquidé avec la mise en vente de ses actifs, dont ses collections. Donc c'est la raison pour laquelle moi je suis assez attaché au modèle de l'institution publique, parce qu'elle apporte des garanties en matière non seulement de neutralité, d'égalité des droits, mais également de pérennité. On est confronté actuellement aux archives nationales à un sujet relatif aux archives LGBT. Plusieurs associations LGBT parisiennes ont créé un collectif pour créer à Paris un centre d'archives LGBT. Il n'a pas encore vu le jour. Et nous conservons aux archives nationales des fonds d'archives comme celles des associations AIDE, ACT UP et David et Jonathan, sous des formes juridiques, soit du dépôt, soit du don. Nous avons échangé avec le collectif, dans le cadre d'un dialogue avec la ville de Paris, puisque la ville de Paris serait le premier contributeur en cas de création d'un centre LGBT. J'étais assez surpris d'entendre certains membres du collectif nous dénier la légitimité de conserver des fonds d'archives au motif que nous ne sommes pas dans la communauté, au motif que l'État ne serait pas fiable, pourrait ne pas l'être à terme, et il ne serait pas fiable parce que, autrefois, il avait criminalisé l'homosexualité. Donc là, cette question de communauté, on voit bien qu'elle se pose. Elle se pose donc dans notre secteur, elle se pose dans d'autres secteurs. Le sujet n'a pas avancé parce que la ville de Paris ne s'est pas mise d'accord avec ce collectif. Elle a proposé un local qui n'aura pas plus convenu, etc. Bon. On voit bien que c'est un véritable sujet. Alors ça, c'est la première fois que j'entendais ce type de discours pour un service d'archives. Hein. Une question de légitimité à conserver des fonds d'archives ce qui nous était expliqué, c'est que seules les associations LGBT avaient la légitimité à porter la mémoire LGBT et donc même à conserver les sources. Nous, on pense que C'est une question de confiance, de dialogue, de gouvernance de la ressource également, et de gouvernance surtout de la valorisation de la ressource. Donc, moi je pense vraiment qu'une institution publique, comme les archives nationales, apporte des garanties en termes de pérennité, de neutralité, d'égalité de traitement, j'en parlais, qui sont des facteurs clés de la satisfaction de l'intérêt public. Je ne voudrais pas qu'il y ait méprise sur le sens de mes propos. Je ne veux pas dire qu'un centre d'archives communautaire ne pourrait pas y parvenir. C'est le cas, par exemple, pour la mémoire LGBT à Amsterdam ou à San Francisco. Mais je veux dire que nous n'avons pas à rougir de la manière dont nos institutions publiques dont nous gérons ces fonds d'archives dans l'intérêt public, ces fonds d'archives qui peuvent intéresser plus particulièrement une communauté, mais pas exclusivement. Je terminerai cette rapide intervention en précisant que si les archives ne sont pas des communs, en droit, on peut observer le développement de l'esprit des communs avec l'apparition d'une relation beaucoup moins verticale, plus horizontale, avec les publics et le début d'une co-construction de nos politiques publiques. Le cadre commun de modernisation des archives, qui est porté par le SIAF, le Service interministériel des archives de France, place les usagers au cœur des politiques archivistiques, et nous avons décliné aux Archives nationales une stratégie 2021-2025 pour plusieurs objectifs, vise à faire des usagers des acteurs de nos politiques. Alors c'est encore évidemment assez timide à ce stade, et bien évidemment ça renvoie à la problématique de l'équilibre à trouver entre la légitimité de l'expert que nous représentons, nous institutions, et celle de l'usager. Et là ça me renvoie à un autre conflit de légitimité. Il y a une quinzaine d'années, je donnais un cours dans le cadre du module management de l'INP. Et j'expliquais que la première difficulté que rencontre un jeune conservateur qui prend ses fonctions en collectivité territoriale, ce qui est souvent le cas pour les archives, c'est cette confrontation avec l'élu, la légitimité de l'élu. Et donc on est un peu dans le même type de situation, c'est-à-dire que cet équilibre qu'on est parvenu à trouver, parfois il y a des frictions, mais on est parvenu à la trouver, entre les deux légitimités, celle de l'expert qui est le conservateur, celle de l'élu, qui est la légitimité démocratique du suffrage, on la retrouve dans notre relation aux usagers, avec un point d'équilibre à trouver. Alors, dans ce cadre, nous avons créé en 2017 un comité des usagers, qui se réunit au moins 3 fois par an, et qui a été très utile pendant la crise épidémique, puisqu'on a débattu, lors des réouvertures, la réouverture et des différentes phases d'ouverture de la salle de lecture, au gré des différentes phases épidémiques, on a débattu des modalités de fonctionnement. Moi, je débat de ce sujet-là avec les instances représentatives du personnel, avec les syndicats. La relation est toujours très exigeante, le dialogue est toujours très exigeant avec les syndicats des archives. Mais il nous semblait extrêmement important d'en débattre aussi avec les usagers. Et nous savons savoir ce qui était pour eux le plus important. Alors, pendant la crise épidémique, comme vous le savez, pour les bibliothèques, les services d'archives, même les musées, il a été question de jauge, donc un nombre maximum de personnes qui pouvaient être présentes dans l'établissement, dans un espace en même temps. Chez nous et en bibliothèque, il était question également de quotas de documents communiqués, il a été question d'horaire, pour donner des facilités horaires aux agents pour qu'ils évitent les heures de pointe. Et donc, moi, ce que je souhaitais savoir avec nos usagers des salles de lecture, c'est qu'est-ce qui était le plus important pour eux, sachant que j'aurais après le dialogue avec les syndicats. Est-ce que c'était la jauge? Est-ce que c'était les horaires? Est-ce qu'ils souhaitaient qu'avant tout, on rouvre à 9h du matin plutôt qu'à 10h? Est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse sauter la jauge? Et donc, le dialogue a été très constructif, parce qu'on est arrivé, ils nous ont fait une proposition, ils nous ont dit que pour eux, ce qui comptait le plus, c'était la jauge, pas l'horaire. 10h, ça allait très bien. Bon, on est quand même revenu à 9h depuis, mais 10h, ça allait très bien. Mais ils ne voulaient plus de jauge. Et donc, après, dans mon dialogue avec les syndicats, on avait aussi le point de vue de l'usager. Et donc, ça, c'est extrêmement important, et c'est nécessaire. C'est un point de vue qu'on n'avait pas auparavant. Avant qu'on crée ces comités, on ne dialoguait pas vraiment dans une instance avec les usagers. On recevait des courriers, souvent de protestation, on en reçoit encore. Mais c'était ça, notre relation à l'usager. De félicitations, de remerciements, c'est plus rare. Ça arrive, mais c'est plus rare. Mais c'était ça. Alors que là, on a vu à quel point c'était constructif et ça permettait d'avancer dans le dialogue global et de définir la politique publique que nous mettions en place dans ce domaine-là précis. Par ailleurs, pour concevoir des outils numériques, on recourt désormais à ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire des usagers types, par exemple le chercheur, le journaliste, parce que on voit souvent que si on construit en chambre avec uniquement un prestataire un outil, selon ce que nous estimons être ce qu'attend l'usager, mais souvent on se trompe en matière de contenu, en matière d'ergonomie, de structuration des contenus. Et il y a souvent des critiques, on a tous fait ces expériences-là, lorsqu'un nouvel outil numérique est mis en ligne. Donc là, c'est extrêmement important de s'associer aux usagers, associer les usagers à la démarche le plus en amont possible. Nous sommes allés un petit peu plus loin l'an dernier, puisque dans le cadre du cycle des essentiels, on a demandé à notre public, aussi bien celui qui est venu à l'hôtel de Soubise que celui qui est en ligne, de choisir les documents que nous allons présenter. On a choisi le premier document, même le deuxième, parce qu'il y a un travail scientifique long à faire au préalable, donc la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le décret d'abolition de l'esclavage, mais les documents suivants, on a demandé au public de les choisir. On ne l'avait jamais fait encore. Donc on leur a proposé une liste de 12 documents, qui pour nous sont emblématiques, avec un champ libre pour en proposer d'autres, pas fermer le sujet. Et c'est ainsi qu'ils ont choisi l'ordonnance de 1944 qui accorde le droit de vote aux femmes, qu'on présentera cet automne, et la loi Badinter qui abolit la peine de mort. Ce sera pour le printemps 2023. Donc on voit qu'on peut, sur certaines opérations, là, c'est des petites opérations, mais symboliquement c'est important, associer les usagers à notre politique publique. Nous associons par ailleurs le territoire de Seine-Saint-Denis à la définition d'une exposition permanente qu'on va créer à Pierrefitte, sur notre deuxième site, puisqu'on est installé à la fois sur le site de Paris et sur le site de Pierrefitte. Associer le territoire, ça veut dire non seulement aller consulter les élus, les acteurs de l'éducation nationale, mais aussi les associations et un panel d'usagers. Et c'est là que ça devient plus compliqué, c'est-à-dire comment est-ce que ces usagers vont être représentatifs. Donc voilà la démarche qui est engagée. Pouvons-nous aller jusqu'à sélectionner les nouveaux fonds à collecter avec les usagers? Tout à l'heure, Marc Drouet parlait du choix des œuvres qui entrent dans un musée, donc c'est tout à fait la même chose. Est-ce que, quand on collecte, on demande l'avis des usagers qui vont nous dire si tel ou tel fonds a plus d'importance historique que tel autre fonds? Allons-nous les consulter avant de numériser des corpus? Allons-nous les interroger lors d'une réévaluation, avant de détruire des documents qui ont déjà été collectés? Je ne sais pas si vous avez eu écho de cette polémique, mais il y a 3-4 ans maintenant, les archives nationales avaient envisagé de détruire des bulletins d'IVG, papier, pour lesquels nous avions parallèlement une base de données, mais en fait pas tout à fait identique. Ces bulletins IVG, il y en avait des centaines de mètres linéaires qui n'étaient pas consultés à cette époque-là. Et ça a déclenché une polémique avec des historiens qui ont signé des tribunes dans Le Monde, dans Libération. Le sujet est remonté jusqu'à la ministre et le fonds n'a pas été détruit. Il faut dire que ça intervenait au moment où on panthéonisait Simone Veil. Donc le calendrier était assez maladroit. Mais au-delà de ça, ça veut dire que si on avait consulté les communautés de chercheurs qui travaillent sur ce sujet avant, on n'aurait pas commis ce qui en fait était une erreur. Scientifiquement, on pouvait tout à fait le défendre, mais d'un point de vue politique, ça ne pouvait pas fonctionner. Et c'est là qu'on voit comment la société peut intervenir. Donc, ça signifie que, après une réévaluation, quand on décide de détruire un fonds d'archives ou des fonds d'archives, au motif qu'ils sont depuis 30 ans pas du tout consultés et qu'on a des sources de substitution, désormais, on sait qu'il sera extrêmement important, voire nécessaire, de consulter les chercheurs du champ, de ce champ-là, de cette discipline, avant de confier les documents à la broyeuse. Mais il faut rester, je pense que je vais rester assez prudent quand même, parce que la transparence est nécessaire. Il y a la notion de transparence, la notion de participation d'association. On va faire en sorte de les associer autant que possible à la définition de nos politiques, mais l'association se fera progressivement, et l'exercice, ça a été évoqué tout à l'heure aussi, atteint aussi ses limites en matière de représentativité. Est-ce que mon comité des usagers, il est vraiment représentatif? Alors, il est représentatif de nos chercheurs en salle de lecture, mais dès lors qu'on parle d'autres usages, d'autres usagers, il ne l'est pas. Et donc, on va le redéfinir, ce comité des usagers. Est-ce qu'il est représentatif de la société? Est-ce qu'il est représentatif, suffisamment représentatif pour permettre une projection dans le temps? Si on décide à un panel d'usagers de déterminer ce qu'on doit conserver pour l'éternité, ce qu'on doit détruire, eh bien on prend une décision pour les générations futures. Alors certes, l'archiviste est dans la même situation. L'archiviste se pose cette question de l'avenir, hein, et avec des armes qui ne sont pas très différentes de celles que peut avoir un professeur d'université. Mais ce qui est important, c'est de croiser les deux approches, sûrement. Parce que comme cela a été dit tout à l'heure, la représentativité est souvent, n'est souvent, on atteint rarement une bonne représentativité, parce qu'il y a d'abord ceux qui s'expriment et ceux qui ne s'expriment pas. Et puis, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les non-publics, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore nos publics. Nous, on ne connaît que ceux qui nous fréquentent, que ceux qui nous écrivent, que ceux qui viennent dans nos salles de lecture ou dans nos expositions. Ceux-là, on peut les interroger, on peut les approcher. Mais tout le public qui ne vient pas et qui est ultra-majoritaire, comment l'approcher? Comment faire en sorte qu'il ait son mot à dire? Parce que c'est sûrement comme cela qu'on va élargir le socle sociologique de nos usagers, en atteignant ce public qui n'existe pas encore. Voilà les quelques idées que je voulais vous proposer. Ça a vraiment été conçu comme une succession de réflexions, et bien sûr, je suis à votre disposition à la fin de cette table ronde pour échanger avec vous.